Chapitre 12. La ferme abandonnée sert de refuge à une multitude d'insectes rampants, qui deviendront à terme des insectes volants attirés par le bois pourri sur lequel poussent des champignons dans les recoins les plus sombres. On trouve également là des squelettes de rats et des plumes d'oiseaux, mais aucune trace des beaux-parents de Jane Hawke. Ce qui ressemblait de loin à une écurie est en réalité un poulailler dont le sol de terre battue est couvert de plumes moisies qui collent aux semelles d'Egon Godfrey. Le lieu n'abrite plus qu'un vilain opossum gras dont les sifflements agressifs chassent précipitamment l'Arcadien pendant que Rupert Baldwin et Vince Penn rient sous cap. La grange est en piteux état, avec ses poutres mangées par les termites, ses murs aux planches tordues, ses portes à moitié arrachées et son toit de tôle troué. Par beau temps, les rayons du soleil pénétreraient à travers l'ouverture béante et traceraient des rectangles dorés en chassant l'ombre. Mais un ciel gris menaçant plane au-dessus de la vieille bâtisse. L'échelle permettant d'accéder au grenier à foin n'a plus que 4 barreaux. Hansel et Claire ne peuvent donc pas être tapis là-haut. De toute façon, Godfrey a pu constater que personne n'avait pénétré dans cette grange depuis une éternité. Le lieu est aussi désert qu'un cratère martien. Vince Penn examine le sol à son tour.
Rien. Aucune trace de pneus ou de quoi que ce soit. Pas une tache d'huile. Il est peu probable qu'un véhicule ait stationné ici même autrefois.
De Worstead au Ranch Hawk, du Ranch Hawk aux écuries Landgreen, des écuries Landgreen à Killin, de Killin à Houston, de Houston à Beaumont et maintenant ce trou du cul du monde.
La poussière de paille aurait conservé des empreintes si quelqu'un était passé par là, insiste Vince Penn.
Rien. Zéro. Que dalle.
La juge Draper Cruxton a donné à Godfrey un curieux ultimatum.
À l'évidence, le grand ordonnateur n'est pas satisfait de la façon dont il s'est servi de son intuition.
Sous le regard méprisant de Rupert, l'inimitable Penn enchaîne.
On dirait bien que les Hawks ne sont pas passés par ici.
S'ils n'ont pas mis les pieds dans la maison, la grange ou le poulailler, c'est qu'ils ont poursuivi leur route à travers champs. Reste à savoir où ils sont allés.
Godfrey se fait la réflexion que rien de ce qui lui arrive n'est réel. À part son esprit, tout n'est qu'illusion. Sa philosophie nihiliste est la seule façon plausible de donner un sens à ce monde de chaos.
Rien n'a d'importance. Il doit se laisser porter.
On est dans une impasse, insiste Vince, face à un mur, au fond d'un cul-de-sac.
Il remarque soudain les chaussures de Godfrey.
Dis donc, Egon, tes godasses sont bizarres.
Tu les trouves pas bizarres, Rupert?
Les chaussures de Godfrey sont couvertes de boue à la suite de son exploration du poulailler, et des plumes y restent collées.
On dirait que tu portes des chaussons en peluche,
s'écrie Vince.
Tu trouves pas, Rupert?
Des chaussons en peluche tout droit sortis de l'enfer, maugré Baldwin.
Godfrey sort son pistolet, abat Vince d'une balle et en réserve deux autres à Rupert Baldwin, qui n'a jamais su dégainer rapidement.
Cette fois, le grand ordonnateur ne lui en tiendra pas rigueur, lui qui prône la violence.
Le scénario exigeait un bain de sang, et c'est un nouvel Egon Godfrey qui entre en scène.
Ta cravate mexicaine était ridicule,
dit-il au cadavre de Rupert, avant de rengainer son arme et d'essuyer ses semelles sur les vêtements des deux morts du mieux qu'il le peut.
Le ciel qui l'accueille à la sortie de la grange lui rappelle la matière grise du cerveau humain, avec ses méandres et ses replis. Les nuages, de plus en plus menaçants, figurent la cervelle du monde, pleine d'idées sombres. Il reprend en sens inverse le chemin de terre battue jusqu'à l'endroit où sont garés les véhicules, en bord de route. Il récupère dans la Jeep l'ordinateur de Rupert Baldwin et l'emporte dans le Rhino GX.
Il vient tout juste de s'installer au volant de son luxueux SUV lorsque gronde le premier roulement de tonnerre. Aucun éclair n'a encore troué le ciel, preuve que l'orage n'est pas encore là, mais il est imminent. Godfrey démarre, fait demi-tour et repart en direction de Beaumont. Il existe d'autres moyens de retrouver les beaux-parents Hawk. Ce ne sont tout de même pas des fantômes. Si seulement. Il comprend alors qu'il n'était pas censé jouer son rôle, d'une scène à l'autre, en compagnie de figurants tels que Janice Dern et Chris Roberts, et les frères Lobo et Rupert Baldwin. Encore moins de cet abruti grotesque de Vince Penn. Godfrey a l'étoffe d'un héros solitaire, ce qui est logique, puisqu'il est l'unique protagoniste réel de cette histoire. Un héros indestructible, comme l'inspecteur Harry ou Shane. Un héros de la Révolution, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds et ne fait pas de quartier. Pour la première fois depuis longtemps, il se sent soudain en phase avec l'auteur de la pièce. Lors de la poursuite qui l'a conduit de Worstead à Beaumont et au-delà, il aura forcément négligé un indice, distrait par la présence de ses acolytes de pacotille. À présent qu'il est seul, il va ouvrir les yeux. Le brouillard qui l'aveuglait va se dissiper et il pourra enfin tuer les beaux-parents de Hawk ou bien les modifier.